Tout d'abord, bonjour à tous et bonjour à vous, puisqu'on va se voir, Gabriel Martinez-Gros.
Bonjour. Oui,
évidemment, convention oblige. Mais évidemment, laissez-moi exprimer toute ma joie de vous recevoir ici à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, même si c'est par désormais, comment dit-on, distanciel. On est désormais rodé à cet exercice de style. Et bien entendu, nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage. Mais votre dernier ouvrage, j'ai envie de dire, c'est un petit peu en trompe-l'œil, dans la mesure où il s'agit en fait d'une série d'ouvrages. Je pense que le premier peut-être daté de 2014. Il s'agit La Brève des Empires, édité au Seuil. Et depuis, Gabriel Martinez-Gros, donc évidemment, ça fait, je crois, mais c'est évidemment un compliment dans ma bouche, tout juste 30 ans que vous avez commencé à faire paraître, éditer des ouvrages qui ont, je crois, ce double mérite d'avoir recentré un petit peu le débat, attiré l'attention, suscité l'intérêt sur tout à la fois les mondes islamisés et dans un premier temps revu l'histoire d'Al-Andalus et de ce qu'on appelle aussi l'Occident musulman dans un premier temps, avant d'initier une réflexion plus globale. Et il faut bien dire, c'est un élément je crois extrêmement important, que vous êtes un des rares historiens qui ambitionnait de créer un système ou de penser en système, évidemment, en établissant de la cohérence, évidemment, en ne vous cantonnant pas, surtout à partir des années 2010, au seul monde musulman, ou plus exactement, comme je viens de le faire, le pluriel est de rigueur, les mondes islamisés, et évidemment, en se basant sur l'auteur qui n'a jamais cessé depuis le 19e siècle de fasciner, et à juste titre, Ibn Khaldun, donc auteur du 14e siècle de l'ère commune, du 8e siècle de l'Égir, vous avez, je crois, avec ce dernier ouvrage, donc La Traîne des Empires, sous-titré Impuissance et Religion, porté à incandescence, un concept, celui d'Empire. Celui d'Empire, où vous discutez pied à pied des concepts aussi problématiques, aussi difficiles et ardus à étudier, à analyser, que sont les empires, les forces tribales qui les sous-tendent, initiales, si on reprend évidemment le schéma khaldounien désormais bien connu, un peu beaucoup grâce à vous depuis les années 2000, il faut bien le reconnaître. Évidemment, la religion, les empires, et donc cette volonté, ce désir, j'ai envie de dire, chez vous, de penser l'histoire en termes de système, qui est désormais une démarche qui est devenue rare. Il faut bien dire, dans la génération qui est la mienne, car évidemment, comme vous et à l'instar d'Ibn Khaldun, je pense l'historiographie et non pas l'histoire en termes de génération. Et il faut bien dire que la génération qui nous précède, je le reconnais volontiers, et je tiens évidemment ça comme un défi, comme une gageure, et quand même, pour dire les choses de façon un peu prosaïque, plus forte d'un point de vue dialectique. Très nettement, on sent bien que la génération à laquelle j'appartiens a sans doute pâti d'un manque de formation en philosophie, notamment. Toute la pensée hegélienne qui avait connu un second regain d'intérêt grâce à l'enseignement de Jean Hippolyte, on va dire à partir des années 50, principalement, évidemment, a essaimé, a diffusé et a permis à toute une génération de porter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à incandescence un certain nombre de concepts, de penser en termes de notions, de systèmes. Évidemment, c'est de cela dont il s'agit. Toutefois, dans ce dernier ouvrage, vous courez le risque, totalement assumé de votre part, naturellement, d'être, puisqu'on est à Bordeaux, comme vous le savez, nous sommes chez Montaigne, d'être guelfe chez les Gibelins et Gibelins chez les guelfes. Est entendu que vous pensez pêle-mêle les empires chinois, romains, islamiques, jusqu'à un certain point, avec une, pour le coup, dernièrement, un intérêt marqué pour l'Inde, qui n'apparaissait pas trop, il me semble, dans les qui apparaissait certes de ci, de là, mais qui n'était pas exactement central. Alors que là, on a un rééquilibrage. Alors peut-être est-ce le fruit ou la conséquence bien des derniers développements de la politique internationale et des événements terribles qui marquent l'actualité. Mais évidemment, c'est de cela dont il s'agit. Et juste après cette longue ou trop longue introduction, étant moi-même Toulousain à Bordeaux et donc Gibelin chez les guelfes, je suis évidemment beaucoup trop bavard et je vais laisser la parole, mais juste pour commencer, dans cette envie de penser l'histoire en termes de système, dire de façon schématique que ce livre propose le schéma suivant, les royaumes combattants, donc qui est un emprunt à l'histoire de la Chine, les royaumes combattants dans un premier temps, dans un deuxième temps, les empires, et enfin, en trois, si je puis dire, puisque c'est un schéma tripartite, une sorte de triptyque, eh bien, les religions. Donc, je vous cède la parole, cher Gabriel, c'est à vous.
Voilà, merci beaucoup Mehdi, et merci pour cette très brillante introduction, qui n'était pas trop longue à mon goût. En tout cas, je crois que vous avez bien situé les choses, très bien même. Voilà, bon, en deux mots, ces trois temps sont destinés évidemment à faire comprendre au lecteur comment on passe des empires, qui ont été le sujet essentiel de mes livres précédents, aux religions. En fait, il faut supposer un troisième temps initial, un premier temps qui est celui des royaumes combattants. Le temps des royaumes combattants, c'est celui du rassemblement des violences nécessaires à la constitution militaire, bien sûr, des empires. Alors, le mot, comme vous l'avez dit très bien, est tiré de l'historiographie chinoise. On appelle période des royaumes combattants la période qui s'étend en Chine du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la réalisation de l'empire par les Han à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais on peut considérer comme des royaumes combattants équivalents ou homologues aux royaumes combattants de l'époque chinoise des 5e, 3e siècle avant Jésus-Christ, les cités grecques, qui sont des royaumes combattants qui préparent les conquêtes d'Alexandre le Grand, la conquête de l'Empire perse, ou encore la période républicaine à Rome, en gros entre le début des guerres puniques au 3e siècle de notre ère et le 1er siècle avant Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain est totalement réalisé sur l'ensemble de la Méditerranée. Ce sont donc des périodes de rassemblement de la violence, de conquête, mais aussi étrangement de démocratie, on va le dire au sens le plus large du terme, d'importance ou de pertinence du rôle politique des peuples, dans la mesure où ces peuples sont mobilisés militairement, et dans la mesure où ils sont mobilisés militairement, dans la mesure où ils se battent, ils ont en général leur mot à dire. Qu'il s'agisse des Chinois qui accompagnent du Shi De Qin, qui accompagnent les forces victorieuses qui font l'unité de l'Empire chinois, qu'il s'agisse évidemment des Grecs, des cités grecques, des 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qu'il s'agisse des Romains de la République romaine ou qu'il s'agisse des tribus arabes, parce que ce sont aussi des royaumes combattants. Et pendant deux siècles, les deux premiers siècles, jusqu'à ce que l'Empire soit véritablement constitué au 9e siècle dans le monde islamique, avec pratiquement la victoire d'Al-Ma'mun et d'Al-Mu'tasim, qui désarme les tribus arabes, pendant ces deux siècles, entre le prophète et Al-Ma'mun, donc entre le début du 7e et le début du 9e siècle, les tribus arabes jouent le rôle qu'on jouait dans la même économie des royaumes combattants, les cités grecques ou la République romaine. C'est-à-dire que vous avez les mêmes poussées, en particulier entre guillemets, démocratique ou populaire, en tout cas, au détriment des élites, que vous observez de la même façon dans la République romaine ou dans les cités grecques. Et puis, vient le temps de l'Empire, les peuples sont désarmés, puisque désormais l'Empire est constitué dans ses frontières. Il est désormais fondamentalement, comme j'avais tenté de l'expliquer déjà dans des livres antérieurs, une réalité à la fois pacifique, pacifiante et accumulatrice, accumulatrice en particulier de capital et de population, la population étant une des formes du capital en quelque sorte. C'est une réalité d'économie prospère, mais de profond désarmement et de profond dessaisissement des capacités d'action populaire, des capacités d'action des tribus, des clans, des familles, de tout ce qui fait solidarité et qui avait assuré le succès des royaumes combattants. Cette désolidarisation, ce désarmement impérial, c'est ce qu'Ibn Khaldoun appelle la sédentarisation, hein, ou la sédentarité, tout simplement. Hein. Elle aboutit, cette sédentarisation, à une impuissance croissante de l'Empire, étrangement. C'est-à-dire que en déchargeant ces peuples, en brisant les communautés naturelles de la famille, du clan, de la tribu, l'Empire est obligé de prendre sa charge, et c'est une charge d'abord financière, hein, c'est par l'intermédiaire de l'impôt qu'il y réussit, il prend à sa charge l'ensemble des fonctions qu'assumaient ces solidarités dans les sociétés primitives, mais il ploie sous la charge, malgré l'augmentation presque constante de l'impôt, il ploie sous la charge d'avoir à défendre d'abord, hein, ce sont d'abord les dépenses militaires, hein, qui vont couler l'Empire, hein, enfin qui vont multiplier ces manifestations d'impuissance. Hein. Il croule sous la charge d'avoir à défendre, d'avoir aussi à assurer des formes de solidarité sociale, des formes de charité, hein, tout simplement, à l'égard de ces peuples, d'avoir à assurer presque toutes les fonctions qu'assumaient les unités naturelles. Et donc, c'est cette impuissance croissante de l'Empire qu'on observe aussi bien en Chine que dans l'Empire romain, que dans l'Empire islamique, encore plus tôt d'ailleurs dans l'Empire islamique que dans l'Empire romain, hein, c'est dès la fin du Xe siècle. Ce sont ces formes d'impuissance croissante de l'action politique et militaire de l'Empire qui ouvrent la voie à ce que j'appelle la religion, ce qui voudrait dire évidemment que dans l'islam, la religion c'est le sunnisme, et que cette religion ne triomphe véritablement sous la forme que nous lui connaissons qu'à partir du moment où l'Empire manifesté sa faiblesse, c'est-à-dire à partir des 10e, surtout 11e siècle. Hein. C'est finalement avec les Turcs que le sunnisme va l'emporter, en effet, ce que tout le monde sait. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il l'emporte parce que le califat est en échec, c'est-à-dire parce que l'Empire est en échec. Voilà, en gros, j'ai fini sur l'islam, mais évidemment, ça vaut pour l'ensemble des constructions impériales.
Alors, justement...
Je crois.
Très bien. Juste, si on devait pas uniquement s'appuyer sur ce dernier ouvrage, mais si on devrait restituer une forme de cohérence aux idées, à l'œuvre que vous avez voulu bâtir, édifier, il y a la prise en compte, somme toute assez originale, de la démographie chez vous, qui est tout à fait centrale. Alors certes, elle est adossée à la notion d'empire chez vous. Vous rappelez à titre indicatif, pour se faire une idée, le fait que les conquérants arabo-musulmans font, après tout, réalisent des conquêtes sur une dimension absolument remarquable, de l'Asie centrale pratiquement aux Pyrénées, avec quelque chose comme une population comprise entre 1 million et 900 000 habitants en tout. Ce qui suppose évidemment une population en armes, extrêmement ce qu'on appelait des peuples martiaux, que caractérise évidemment cette appétence pour la guerre, cette disposition naturelle, dirait Ibn Khaldoun, pour la violence, évidemment, et une, qui plus est, une violence supérieure par rapport à la population des empires. Donc évidemment, comment resituerez-vous ce paramètre, ce paramètre dont vous avez rappelé à juste titre qu'il est fondamental, qu'il est essentiel, celui de la démographie, là où justement, pour ce qui concerne l'islam, cette histoire, l'historiographie du monde musulman, on va dire depuis sa renaissance au XIXe siècle, quelque part située entre Antoine Isaac de Sacy et Ernest Renan, avait été pour l'essentiel l'histoire de la pensée, c'est-à-dire un élément extrêmement abstrait. Vous, vous prenez à bras-le-corps les variables tout à la fois démographiques, économiques, notamment à travers la question ô combien importante de l'impôt, évidemment, des taxes. Donc évidemment, où situez-vous exactement cette variable démographique et pourriez-vous expliquer davantage, s'il vous plaît, quel usage vous avez choisi, vous avez désiré en faire, en réaliser finalement ?
Absolument. Alors c'est tout à fait une variable fondamentale et même encore aujourd'hui, hein, ce que la plupart de nos analystes, de nos économistes tentent à ignorer, trop à mon goût et à mon sens. Pour Ibn Khaldoun, c'est la variable majeure. Il est probable que le fameux mot « Omran », vous savez, qui définit la nouvelle science, à ses propres yeux, hein, qu'il a mis au point, et qu'on traduit en général par « civilisation », pourrait se traduire de la même façon par, ou dans bien des cas en tout cas, dans ces textes, par « population » ou par « démographie ». Ibn Khaldoun est contemporain de la peste. C'est tout simple. Il a vu comment s'effondrer le revenu fiscal, en particulier des États qui lui étaient arrivés de servir, en particulier le Maroc Mérinide ou les Abdelwadid de Tlemcen. Et donc, il était particulièrement sensible à ces questions démographiques. Pour lui, il y a, parmi toutes les différences qui séparent le monde qu'il appelle bédouin, c'est-à-dire le monde de la tribu et de la violence dans une certaine mesure, et le monde sédentaire, c'est-à-dire le monde du désarmement, de la pacification et de la prospérité économique et de l'efficacité économique, il y a une différence considérable, c'est que le monde sédentaire est un monde de population dense et que le monde bédouin est un monde de population très clairsemé, hein, évidemment. Alors donc, je crois qu'il a tout à fait raison. Je crois que on peut considérer qu'il n'y a pas d'empire avant qu'une certaine masse critique de population ne soit présente sur la Terre et en certains points de la Terre. Hein, très évidemment, il faut une dénivellation de population pour faire empire. Et cette dénivellation de population, elle n'apparaît qu'au Moyen-Orient, en gros, vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. J'avais déjà situé, à tort ou à raison, dans des livres antérieurs, l'empire perse achéménide comme probablement le premier empire du monde, hein, le premier empire de l'histoire. C'est à partir du moment où l'empire existe, c'est-à-dire à partir du moment où le processus de désarmement et de sédentarisation de l'empire en vue d'une meilleure prospérité des peuples et des sujets existe, que les invasions, entre guillemets, barbares existent aussi. Hein. Les barbares n'existent qu'en fonction des... ou les bédouins n'existent qu'en fonction des sédentaires. La violence n'existe qu'en fonction du désarmement. Hein. Ce sont des couples qui sont absolument contemporains. On ne peut pas imaginer des conquêtes aussi brutales que celles des Arabes ou celles d'Alexandre le Grand, si vous préférez, parce que c'est aussi Alexandre le Grand, une conquête bédouine. Hein, des Macédoniens ou des tribans de l'Empire perse. On ne peut pas imaginer des conquêtes aussi victorieuses, aussi brutales, aussi rapides, sans concevoir que les populations qui sont conquises sont des armées. D'où, évidemment, la rapidité de la conquête. C'est-à-dire qu'il y a eu une œuvre impériale de désarmement, de sédentarisation, de pacification, de civilisation, dirait Ibn Khaldoun, parce que en même temps qu'on a pacifié, on a considérablement développé les moyens économiques de ces populations, et donc elles ont dans une certaine mesure réussi à garder beaucoup mieux que les populations bédouines leur descendance, et donc à croître, hein, tout simplement le grand luxe de la sédentarisation, selon Ibn Khaldoun, c'est de garder ses enfants, c'est de faire en sorte qu'ils meurent un peu moins nombreux, alors que dans les tribus bédouines, ils meurent dans des proportions bien, bien supérieures, d'où la croissance de la population des terres sédentaires. Mais en même temps, ces terres sédentaires sont désarmées, et par conséquent, elles ouvrent la voie aux invasions, aux incursions bédouines, et donc à la constitution sans cesse de nouveaux empires, bien entendu. Hein. Et ces nouveaux empires, il n'y en a pas eu un nombre gigantesque. Hein. À mes yeux, il y en a eu 3 ou 4, et je les identifie même par les religions dans lesquelles ils ont abouti, puisqu'il n'y a que 3 ou 4 grandes religions milliardaires dans le monde, c'est qu'il n'y a eu que 3 ou 4 grands empires. Hein. C'est chacun de ces grands empires donnant une religion, la Chine pour le bouddhisme, l'islam évidemment pour l'islam, pour la religion musulmane, et le christianisme pour l'Empire romain pour le christianisme.
Alors justement dans ce cadre-là, on peut ainsi mieux comprendre l'intérêt pour l'Inde, parce que évidemment dans ce cadre-là, l'Inde constitue une sorte d'aporie. Oui. Car évidemment.
Oui, tout à fait.
Je vous en prie, vous pouvez, s'il vous plaît.
Alors, tout à fait. Non, je n'ai pas de. Bien entendu, je n'aurai pas l'outrecuidance d'avancer des raisons dirimantes pour expliquer l'aporie indienne ou la particularité extrême de l'histoire indienne. Simplement, je voudrais rappeler que, en réalité, chacun de ces empires et chacune de ces religions, par conséquent, a une histoire très particulière. Et que finalement, on ne peut pas comparer l'histoire du bouddhisme en Chine, celle du christianisme en Occident, où l'Empire a disparu avec l'Empire romain et ne s'est jamais reconstitué dans ses structures impériales fondamentales, et l'histoire de l'islam, où l'Empire s'effondre avec le califat et permet, donc au 11e, 12e siècle, et permet le triomphe pratiquement du sunnisme, mais où l'Empire ressurgit, en particulier aux époques modernes, avec les deux ou trois grands empires que sont l'Empire ottoman, l'Empire séfévide en Iran et l'Empire indien. Alors, pour ce qui concerne l'Inde, ne fuyons pas la question, vous avez raison de la poser. Mon hypothèse, c'est que, comme dans les autres cas, la religion, c'est-à-dire l'hindouisme aujourd'hui, hein, est la conséquence de l'Empire, mais d'un Empire qui n'a pas été constitué par des forces hindouistes. Ce qui a constitué l'Empire indien, ce sont les invasions musulmanes à partir du 12e, 13e siècle, qui s'achèvent au 16e siècle avec l'immense Empire moghol, lequel cède le relais ensuite à l'Empire britannique, lequel cède le relais à l'Inde indépendante, et c'est finalement probablement à l'époque britannique, hein, au 19e siècle, que naît, à partir de l'immense diversité des sectes, des castes, convictions religieuses et surtout des pratiques religieuses des hindous, hein, une catégorie bien identifiée tant par les musulmans que par les britanniques, que naît une religion unique, ou en tout cas une religion qui se considère aujourd'hui comme unique, qui est l'hindouisme. Et en ce sens, l'hindouisme serait bien le produit d'un empire, comme les autres grandes religions de ce monde, sinon que cet empire n'a pas été construit par les hindous. C'est là qu'il y a, comme d'habitude dans l'historiographie, hein, toutes les historiographies sont des trucages, hein, donc il y a une forme de trucage, si vous voulez, dans l'historiographie telle que la présente aujourd'hui le mouvement nationaliste indien. Hein. C'est-à-dire que ce ne sont pas les hindous qui ont construit l'Empire indien, mais les musulmans et les britanniques qui leur ont succédé. Et à partir de cette construction de l'Empire indien, de cette unité faite de l'Inde, s'est dégagée une religion unique des hindous, qui est l'hindouisme.
D'ailleurs, je profite de l'occasion pour faire remarquer que le BJP aurait initié une procédure pour, cas, je crois, rarissime, pour déclassifier le Taj Mahal en tant que patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. Compte tenu que...
Ah oui, je ne savais pas.
Compte tenu que le Taj
Mahal
serait...
Ça ne m'étonne malheureusement pas, mais je ne savais pas.
Essentiellement, radicalement... anti-hindouiste, enfin du moins non incorporable dans le roman national indien que vous venez d'évoquer si brillamment. Alors évidemment, par rapport à votre démarche, votre volonté de penser l'histoire en termes de système, où exactement et comment, vous allez nous le dire, parce que naturellement la tarte à la crème, vous savez, pour les historiens, c'est la problématique, la tension entre continuité, une sorte de continuum et rupture, c'est du moins ainsi que l'on le présente, vous savez, à n'importe quel étudiant de licence, et évidemment comment vous introduisez des ruptures, des mutations, dans la mesure où le schéma explicatif à toutes les apparences de relevé de l'histoire cyclique. Alors, je sais bien que cela confine presque aujourd'hui à l'invective. Pensez l'histoire en termes de évidemment cyclique.
Tout à fait.
C'est un petit peu la sorte de craque. Donc, évidemment, on voit dans votre raisonnement apparaître le problème que pose et la rupture induite par l'émergence de l'État-nation. Par la problématique, la substitution de l'armée de conscription à celle de mercenaires que vous avez évoqué, mercenaires qui étaient dans leur majorité issus de ces marges des empires, de ces périphéries, de, vous diriez-vous, je crois, ces dépotoirs d'empires, n'est-ce pas ? Et évidemment, dans le sens du mot, naturellement. Et évidemment, comment faites-vous intervenir les ruptures, notamment dans votre raisonnement, c'est tout à fait frappant. Il y a l'État-nation, mais par exemple, l'émergence, vous y faites un petit peu allusion, eh bien, subrepticement, à l'émergence de sociétés disciplinarisées, hein, un petit peu sur le mode qu'avait mis en avant en son temps Foucault dans Surveiller et Punir, c'est-à-dire l'apparition quasi simultanée de l'hôpital, du lycée, de la caserne. Évidemment, et aussi peut-être ça sur un autre plan plus dialectique, aussi sans doute plus ardu à manier, l'émergence du cogito propre, qui serait propre ou pas, question encore une fois hautement polémique et ardue, l'émergence du cogito en Europe au XVIIe siècle, et aussi, et j'en aurai fini là, je vous cède la parole, naturellement, de ce que Norbert Elias appelait la civilisation des mœurs, c'est-à-dire quelque chose qui serait propre, qui serait en lien avec l'émergence du cogito, l'apparition de l'intimité, la privacy, diraient nos confrères anglo-saxons. Donc évidemment, comment introduisez-vous la notion de mutation et identifiez-vous des tournants majeurs par rapport au schéma que vous avez vous-même expliqué en début, lors du début de cette entrevue?
C'est effectivement une très vaste et très importante question. En fait, mon livre est beaucoup plus modeste qu'il ne semble, ne serait-ce et d'abord que parce qu'il ne prend en compte que trois ou quatre expériences impériales. Évidemment, me direz-vous, les plus importantes, ces trois ou quatre expériences impériales ont presque toujours rassemblé une petite moitié de l'humanité, au moins, hein, ce qui est évidemment gigantesque. Vouloir expliquer sur 2000 ans la moitié de l'histoire de l'humanité, ça paraît gigantesque. Mais ce ne sont que quelques grandes unités dont je fais, comme je vous le disais tout à l'heure, dont je fais grande attention noter les différences qui sont tout à fait décisives. Par exemple, l'émergence de l'Occident reste, à mes yeux, et j'entends aux yeux de la théorie d'Ibn Khaldoun que j'essaye d'appliquer ou de ne pas appliquer lorsqu'elle ne me paraît pas applicable, reste un mystère. Hein. Logiquement, dans la mesure où il n'y a pas de système impérial, c'est-à-dire pas de rassemblement autoritaire de l'impôt, pas de capitale gigantesque comme Bagdad ou Rome ou Constantinople ou Alexandrie même à l'époque hellénistique, je passe les capitales chinoises qui sont moins connues, l'Occident n'aurait pas dû décoller, si j'ose dire. Hein. Or, après l'an 1000, et d'une façon que la théorie d'Ibn Khaldoun n'explique pas, et donc je n'explique pas davantage, mais je laisse à tous mes collègues occidentaux, ils sont nombreux et occidentalistes, le soin de l'expliquer, l'Occident décolle. Hein, c'est-à-dire qu'il se produit une forme d'accumulation du capital, de la population, et en particulier de la population urbaine, que la théorie d'Ibn Khaldoun aurait jugé impossible. En gros, tant que avant l'an 1000, en gros, la théorie d'Ibn Khaldoun en Occident, ça marche, c'est-à-dire, vous voyez, l'Empire s'effondre, on revient à une forme de barbarie, c'est-à-dire à une population très clairsemée, malgré tout. Je sais que les historiens du Haut Moyen-Âge hurleraient, mais en fait, disons-le, hein, la population reste très clairsemée, le réseau urbain reste relativement faible, et l'accumulation de capital et de population est donc relativement limitée, et surtout, il n'y a guère de progrès ou de progression, comme on l'observe dans le cas d'une accumulation impériale par le biais de l'impôt, qui rassemble le capital et qui permet donc des gains de productivité, de nouvelles techniques, de nouveaux métiers, qu'on n'observe pas au Moyen-Âge. Mais à partir de l'an 1000, ça change. Ça change. Alors, on pourra invoquer des raisons climatiques, qui ont permis indiscutablement le développement de l'agriculture dans les terres septentrionales de l'Europe. On pourrait invoquer d'autres raisons sociales, économiques. Mais ça reste, au regard de la théorie d'Ibn Khaldoun, un mystère. Je n'hésite pas à dire que la théorie d'Ibn Khaldoun n'explique pas tout, qu'elle a véritablement ses limites dans un certain nombre de cas. Et ça explique probablement une part d'un exceptionnalisme occidental. Y a-t-il un exceptionnalisme occidental? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette percée, à partir du XVIe, XVIIe siècle, qui est essentiellement une percée scientifique, beaucoup plus qu'une percée politique, hein, une percée scientifique et technique, hein, beaucoup plus qu'une percée politique. La percée politique viendra plus tard. Et surtout, elle est la conséquence dans son succès de la percée scientifique et technique. Si la percée scientifique et technique n'avait pas eu lieu, comme le dit Tocqueville, hein, on l'aperçoit à partir de 1760-1780, hein, jusque dans tous les esprits, ou dans presque tous les esprits, la Révolution française soit n'aurait pas eu lieu, soit elle n'aurait été qu'une hérésie médiévale dont l'échec aurait été programmé. Hein, mais elle réussit, parce qu'en fait, elle réussit, hein, cette révolution, celle-là, et même, dans une assez large mesure, la révolution russe, ou plus tard la révolution chinoise. Le temps des révolutions réussit parce qu'il y a une poussée scientifique, technique, hygiénique, médicale, qui va multiplier dans un royaume, dans un régime qu'on appellerait plutôt un régime de royaume combattant, c'est-à-dire non pas un régime impérial, mais un régime de participation populaire active et belliqueuse. Il faut se souvenir, il faut reconnaître que c'est ce que la Révolution française a donné. Hein, ce sont effectivement des régimes à la fois plus démocratique que ne l'était celui de l'Ancien Régime, où les masses populaires avaient davantage leur mot à dire, mais aussi, comme le dit Mirabeau à la tribune de la Constituante, mais aussi des régimes extraordinairement belliqueux. Ce que tout le monde sait, mais on ne fait pas ou on ne veut pas faire dans la correction politique du monde d'aujourd'hui le lien entre les deux. Or, il y a un lien entre les deux, bien entendu. La participation populaire a impliqué une attitude beaucoup plus belliqueuse des entités politiques, c'est-à-dire des États-nations, en l'occurrence, au XIXe et au XXe siècle. Et inversement, hein, cette attitude belliqueuse ou ces guerres gigantesques ont exigé des mobilisations de populations qui ont donné à ces populations le droit à la parole, hein, tout simplement. Hein, puisqu'elles se battaient, elles avaient le droit à la parole. Alors, aujourd'hui, nous sommes sans doute à un tournant.
Vraisemblablement. Mais juste avant d'arriver au monde, j'ai failli dire au monde de demain, même si, évidemment, j'estime que les historiens Enfin, moi, pour ma part, nous sommes toujours plus enclins à prédire le passé, naturellement, qu'envisager
l'avenir. Moi aussi.
Mais ce que je puis en dire, c'est que, évidemment, la faculté absolument neuve, on va dire, à la charnière des 18e, 19e siècle, pour les États ouest européens, la France et la Grande-Bretagne pour l'essentiel d'abord, avant que les autres suivent, de contrôler la totalité d'un corps social, évidemment, vous la reliez à l'idée d'expansion, à l'idée de proposer un horizon d'expansion qui aurait évidemment deux niveaux. Un niveau interne, je l'ai évoqué, de contrôler la totalité d'un corps social tourné vers la guerre, et évidemment vers l'extérieur, l'idée de soumettre, de se dilater toujours plus loin, du côté des guerres de l'opium, du Tonkin, de Madagascar, etc., c'est-à-dire sur les confins du monde.
Oui.
Naturellement. D'ailleurs, faites-vous est-ce que vous prenez à votre compte l'expression de grande divergence qu'on a pu entendre par exemple chez Kenneth Pomerantz, hein, qui à partir d'une analyse beaucoup plus économique, économiciste, peut-être dans un sens beaucoup plus restreint que l'analyse à laquelle vous vous êtes livré juste à l'instant. Donc évidemment, voyez-vous à travers cela une grande divergence, naturellement, qui dirait quelque chose de fondamental sur l'exceptionnalisme de l'Europe de l'Ouest, de ce qu'on a communément appelé l'Occident de l'Ouest, quelque chose comme ça.
Il y a de toute façon effectivement une étrange divergence que j'avais peut-être déjà notée dans des livres antérieurs. Cette union dont l'Occident moderne est le seul exemple, mais finalement il n'y a que des exemples uniques dans l'histoire, ou presque, hein, chaque situation est tout à fait particulière, de lien entre les activités guerrières et les principes ou les tendances démocratiques par conséquent des États-nations européens, d'une part, et d'autre part, leur capacité d'accumulation de richesses et de population, qui était en principe, dans les expériences impériales antérieures, caractéristique de deux temps totalement séparés, le temps des royaumes combattants d'abord, puis le temps de l'accumulation de la richesse et de la population dans la période proprement impériale. Là, les deux sont réunis, et ça donne des choses extraordinairement divergentes, évidemment. C'est-à-dire que, comme vous le dites, la population est totalement caporalisée, ce qui correspond au temps impérial. Elle est caporalisée de telle sorte que son efficacité économique, en fait, soit la plus grande possible. Et en même temps, elle vote. Et en même temps, elle décide de son destin. Je ne parle pas du vote d'aujourd'hui, peut-être, mais...
Vous faites allusion au prélèvement à la source que Macron nous a imposé.
Voilà. Non, je... Oui. La caporalisation aujourd'hui se poursuit, évidemment. C'est une tendance naturelle de passage des États combattants, des royaumes combattants à l'Empire. En revanche, ce qui s'efface dans l'arrière-plan, précisément aujourd'hui, c'est l'aspect à la fois belliqueux et démocratique, c'est-à-dire l'aspect royaume combattant, hein, que nous avons de moins en moins en tête et que nous pratiquons de moins en moins. Mais c'est vrai que pendant une centaine d'années, disons entre les années 1870 et 1970, il y a eu une contradiction absolument considérable entre le fait qu'on demandait aux mêmes citoyens, aux mêmes charcutiers, aux mêmes bouchers, aux mêmes savetiers, comme disait le duc de Brunswick à propos des troupes françaises à Valmy en 1792. On leur demandait d'être des héros sur le champ de bataille lorsque la République ou lorsque l'État, la nation, leur demandait de mourir pour elle. Et en même temps, et dès lors qu'ils étaient démobilisés, on leur demandait de rentrer tranquillement dans leur charcuterie ou dans leur boucherie ou dans leur cordonnerie et de payer leurs impôts et de respecter les limites limitation de vitesse, et etc. Enfin bon, bref, ce que vous savez, et de payer effectivement l'impôt par avance. Il y avait là une contradiction qui est considérable et qui d'ailleurs explique en partie probablement les fascismes. Hein. Les fascismes, c'est un retour de guerre raté. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas reprendre la vie civile. Parce qu'on leur a dit pendant 4 ans, vous êtes des héros. Ou on leur a dit pendant 4 ans, vous allez vous conduire comme des héros. Vos modèles sont des héros. Quand vous avez compris ou vous avez cru comprendre que les modèles étaient des héros, vous ne voulez plus revenir au rang de charcutier, hein, tout simplement.
Puisqu'on s'approche un petit peu du monde d'aujourd'hui, du monde actuel, de ses défis, et probablement de ce que l'on peut juste deviner, esquisser. Mais évidemment, vous l'avez déjà évoqué pour la période des royaumes combattants, également de l'Empire, déterminer le niveau de violence. C'est évidemment, je pense, un des axes forts de votre pensée. Et naturellement, en ce sens, est-ce que comment vous faites intervenir ce facteur, cette modalité, évidemment, qui rentre dans le raisonnement, c'est-à-dire, est-ce que véritablement, certes, les hommes dans les portes médiévales ou l'âge moderne dans les empires n'ont pas la possibilité de s'allier, de faire clan, de faire fonctionner leur esprit de corps pour renverser le statu quo, véritablement. Au bout du compte, on a assisté uniquement qu'à des jacqueries, quelque chose comme ça, tout au plus. Mais évidemment, la possibilité désormais de jouer sur le corps social et de faire jouer cette violence à plein. En ce sens, la question de la monopole, un des concepts qui vous est cher, emprunté à Max Weber, naturellement, celui du monopole légitime de la violence exercée par les organes d'État, véritablement, peut-on considérer qu'il intervient quelque part avant les 17e, 18e siècles, par exemple, avec la question de l'interdiction des duels par Richelieu, par exemple, si on prend comme tournant majeur pour ce qui concerne l'histoire occidentale, car évidemment, il me semble que les mondes musulmans restent des mondes où on continue à se battre, y compris dans les endroits où on paye l'impôt, où on se bat, où le sang coule, c'est-à-dire des sociétés à très haut niveau de violence, même si cette violence ne trouve pas un canal où s'exprimer de telle façon qu'elle puisse ériger, bâtir des dynasties, voire des empires sur un autre plan. Donc évidemment, cette question du monopole de la violence et de comment déterminer la violence, comment prenez-vous cela en compte ?
Le problème de la violence est absolument central. Hein. Pour moi, sans doute aussi pour Ibn Khaldoun, il s'agit effectivement, comme vous le dites, d'une violence organisée en vue de la prise du pouvoir, c'est-à-dire organisée en vue de la confiscation des ressources, hein, tout simplement. Hein, c'est une violence au départ très pillarde hein, dont Ibn Khaldoun nous parle. Mais la violence, ce qu'il comprend parfaitement, je crois, et ce qui est éblouissant et lumineux, c'est que il n'y a pas de violence sans désarmement. Hein. Ce qui caractérise d'abord la violence khaldounienne, cette violence qui constitue les dynasties et les États, c'est d'abord le fait qu'un travail de non-violence a été opéré dans les masses productives. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'empire et que la construction khaldounienne n'existe pas avant qu'une certaine masse critique de population ne soit atteinte. On peut la fixer effectivement à la deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère, hein, entre 500 avant Jésus-Christ et notre ère, c'est-à-dire le moment où se constituent précisément l'Empire chinois, l'Empire romain, l'Empire achéménide, les conquêtes d'Alexandre le Grand, etc. La violence n'existe que parce que des parts considérables de populations denses ont été désarmées et enrichies en même temps. C'est-à-dire que vous avez un énorme troupeau de moutons. Alors évidemment, ça attire les loups. Hein, j'emploie la métaphore que vous connaissez évidemment d'Ernest Gellner sur la théorie de Macheldoun, où il dit bah, les bédouins sont les loups et les sédentaires sont les moutons. Les premiers, étrangement, Ibn Khaldoun dit bien sûr, dans les débuts de l'humanité, il n'y avait que des loups, en quelque sorte. Hein. Mais en réalité, à l'origine du phénomène de l'Empire, du phénomène du déploiement de la violence, il y a les moutons. Ce sont les moutons qui constituent les hordes de loups qui les attaquent moins pour les dévorer que pour les faire travailler à leur service, en fait. Hein, pour les exploiter, hein, bien sûr. Et donc... C'est en ce sens que, d'abord, la non-violence est constitutive de la violence, étrangement, et en second lieu, que la violence est constitutive des empires, c'est-à-dire que la violence est constitutive de l'ordre qui la nie. Hein, c'est-à-dire qu'une fois que les loups ont pris le pouvoir dans le troupeau de moutons, ils s'efforcent de garantir leur troupeau de moutons contre d'autres loups qui pourraient l'attaquer. Et puis, petit à petit, alors là, c'est le fameux phénomène de la sédentarisation selon Ibn Khaldoun, l'esprit de combat de ces loups se dilue dans le troupeau de moutons. Ils deviennent des chiens-loups et puis des chiens qui sont incapables de résister, évidemment, aux loups nouveaux qui viendront pour s'emparer du troupeau. Donc la violence est tout à fait centrale en ce sens que, en particulier, c'est un phénomène anthropique. Une fois que vous avez perdu votre violence, vous ne pouvez plus la rattraper. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen comme le voulait Machiavel, par exemple, pour les Italiens de son temps, hein, il n'y a pas moyen de retrouver... le courage ou l'esprit de combat des ancêtres lorsqu'il est perdu. Il est perdu à peu près définitivement et d'autant plus définitivement, et ça c'est vraiment de l'ordre du génie d'Ibn Khaldoun, ce que peu, vraiment très très peu de gens ont pu voir avant lui et même après lui, ce souci cette perte de violence, cette perte d'agressivité générale de la société, se traduit évidemment peu à peu, et là nous en arrivons pratiquement déjà aux religions, hein, se traduit peu à peu évidemment dans l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus à quoi sert la violence quand on vit dans une société non violente. Et on ne voit plus pourquoi, et c'est tout à fait nous évidemment, on ne voit plus pourquoi la violence ne pourrait pas être éradiquée. Or, en fait, elle ne peut pas l'être. Elle peut être repoussée aux frontières, elle peut être repoussée sur les marges. Et là, elle renforce, évidemment, les marges lupines, hein, les marges bédouines de la société sédentaire. Et elle peut être donc éradiquée au centre dans la société civilisée et sédentaire. Mais la violence ne peut pas être totalement éradiquée partout sur la Terre. Il y aura toujours... un groupe un peu plus violent et qui profitera de sa violence dans le jeu de la société sédentaire, c'est-à-dire dans le jeu du pillage des ressources de ceux qui sont moins violents que lui. Voilà.
En ce sens, estimez-vous que depuis les années 80, et tout particulièrement à partir d'un événement qui a fait date, à savoir la guerre en Afghanistan des années 80, la conception de l'Empire, de ses marches, de ses périphéries et l'utilisation des populations périphériques est revenue, a fait un retour en force, peut-on dire, peut-on affirmer, dans les calculs évidemment, de ce que l'on pourrait qualifier, si on était un tant soit peu complotiste, d'état profond. Naturellement, est-ce que naturellement, on pourrait désigner les institutions évidemment plus sérieusement,
voilà,
qu'elles relèvent, si mais évidemment, l'utilisation voilà. des peuples périphériques et de marge, en ce sens, le monde est-il étonnamment redevenu Khaldounien, donc en cette vers la fin du siècle passé.
Absolument. Je le pense, bien sûr. Hein. C'est même pour ça qu'il y a 25 ans que je m'acharne sur ce pauvre Ibn Khaldoun et que je m'identifie à lui toujours davantage. Mais Oui, ça tient à des raisons purement pratiques. C'est-à-dire que ceux qui gouvernent l'État et qui disposaient jusque-là de la violence naturelle des peuples, en quelque sorte surtout dans les États-nations, c'est-à-dire dans nos royaumes combattants, dans nos formes modernes de royaumes combattants, peuvent de moins en moins compter sur cette violence-là. Or, ils ont besoin, comme toujours les dirigeants des empires, ils ont besoin d'un minimum de violence pour gouverner, pour défendre leurs frontières, pour assurer l'ordre. Et donc, ce minimum de violence, comme le firent les dirigeants des empires depuis pratiquement 2000 ans, les dirigeants chinois, probablement les premiers, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, font appel à des... à des sources de violence qui sont aujourd'hui extraordinairement réduites, effectivement, parce que la sédentarisation du monde a très largement gagné et continue à gagner, hein, d'ailleurs, pratiquement dans toutes les régions du monde, y compris en Afrique subsaharienne, qui est l'une des dernières régions d'économie rurale. Mais même là, l'urbanisation est en train, la scolarisation est en train, la réduction de la fécondité des couples est en train. Elle est tout à fait spectaculaire dans le monde d'aujourd'hui, hein. 67-68% des populations mondiales, plus des deux tiers, d'après les dernières statistiques des Nations Unies, sont passées en dessous du taux de renouvellement des générations, c'est-à-dire en dessous des deux enfants par famille, c'est-à-dire que les deux tiers des populations mondiales sont potentiellement déficitaires, ce qui est tout à fait spectaculaire. Et donc, les dirigeants font appel de plus en plus au groupe Wagner, à Bridgewater. Alors, on désigne évidemment, pour les discréditer, ces mouvements lorsqu'il s'agit des mouvements de l'ennemi ou de l'adversaire, quand il s'agit des Russes ou des Américains, quand on n'aimait pas les Américains. Mais... en fait, le mouvement, il est à peu près général. Il serait tout aussi observable si on l'observait de près dans les armées françaises, surtout dans les armées de terre, hein, lorsqu'il s'agit de mettre des bottes sur le sol, comme disent les anglo-saxons. Hein. Quand il s'agit de tirer de loin, la marine ou l'aviation, c'est un peu différent. Mais quand il s'agit d'y aller sur le terrain, comme par hasard, ce sont des groupes de la population française ou de la population de la France, enfin de la population française pour l'essentiel, qui sont des groupes particuliers, des origines maghrébines, origines des dom-toms,
ou de la Gascogne,
beaucoup, hein, dans l'armée française d'aujourd'hui. Et donc, vous avez ces mêmes phénomènes, hein, de restriction, hein, de passage, si vous voulez, d'une mobilisation générale qui était traditionnelle dans les États-nations, c'est-à-dire dans les royaumes combattants des 19e et des 20e siècles, à une mobilisation beaucoup plus restreinte, qui ressemble bien davantage à la mobilisation des martial races dont vous parliez au début, des races martiales dont vous parliez, caractéristiques des empires, hein, en particulier caractéristiques de l'empire indien, puisque c'est de là que nous est venue l'expression de martial race. Ce sont les races qui, dans les ethnies qui, dans l'empire indien, à la fois dans l'empire moghol musulman et dans l'empire britannique, assumaient l'essentiel des fonctions militaires, les gourkas, les sikhs, les musulmans du Punjab, etc.
Tout à fait, tout à fait. Donc, évidemment, on peut bien voir, on peut identifier le fait qu'un certain nombre de conflits dans le monde, entretenus sciemment ou pas, le Mali, l'Afghanistan, évidemment pendant longtemps les peuples du Caucase, aussi les guerres entretenues par les narcos dans un pays qui nous est cher, n'est-ce pas, qui est bien évidemment le Mexique, vous avez un certain nombre d'abcès de fixation, où tout à la fois les armées nationales s'aguerrissent, d'une part, et d'autre part, vous avez des gens qui continuent à être dressés dans la violence, et qui sont remarquablement efficaces quand ils sont intégrés, avec certainement une petite dose d'adaptation, j'imagine, dans les armées nationales.
Voilà.
Donc évidemment,
Un des meilleurs exemples, évidemment, c'est celui des Tchétchènes de Kadyrov. Hein. Vous êtes en présence d'un phénomène tout à fait impérial, c'est-à-dire une énorme révolte extraordinairement difficile à réprimer, extraordinairement sanglante. Et au total, la répression de cette révolte, l'installation à la tête de l'ethnie révoltée d'une hiérarchie, d'une aristocratie favorable à l'Empire, permet à l'Empire d'utiliser ses troupes à d'autres moyens. Ce qui ne veut pas dire par là que la Russie est un empire, mais il y a là un trait impérial, indiscutablement. Mais un trait impérial que probablement elle partage avec, avec d'autres. Hein. Le nombre des Latinos à l'intérieur de l'armée des États-Unis est tout à fait considérable. Et ces Latinos viennent effectivement, ils sont si nombreux à l'intérieur de l'armée américaine, parce que, comme vous l'avez dit, ils viennent de sociétés extrêmement violentes. Ils viennent de sociétés où le sens de la violence n'a pas totalement disparu. Ce que vous disiez à propos des sociétés de l'islam tout à l'heure, ce qui est vrai aussi dans les sociétés de l'Amérique centrale, en effet, hein, au Mexique et dans au Salvador, Honduras, au Guatemala, etc. C'est dans ces sociétés, la violence conserve toute sa pertinence et j'allais dire d'une certaine manière, car il y a une morale de la violence dont les non-violents ce que les non-violents ne se résignent pas à admettre, mais il y a une morale de la violence. Il y a une morale de la violence qui demeure hein, dans ces sociétés, alors que, par exemple, dans la société américaine moyenne, elle a pratiquement disparu, cette morale de la violence.
Alors, en guise de conclusion, pourriez-vous, s'il vous plaît, évoquer pour nous les perspectives, la naissance, bien entendu, il est trop tôt pour l'affirmer, pour l'instant, en voie de gestation, en voie de constitution, des nouvelles religions du 21e siècle que vous avez identifiées comme étant plus ou moins l'antiracisme, l'écologisme, je crois que c'est les deux principales. Tout de suite, je ne me souviens plus s'il y avait le wokisme, mais je crois que oui. Non, il n'y avait pas, non, c'est ça. C'était principalement l'écologisme, si j'ai bonne mémoire. Donc, évidemment, en guise de conclusion, pourriez-vous évoquer cette question, encore une fois, controversée, épineuse, hein, polémique, de la naissance de nouvelles religions au 21e siècle.
Voilà. Alors, à l'intérieur d'un livre qui est un essai, et même un essai final hein, d'une suite d'enquêtes, c'est vraiment la partie la plus essai, enfin, la tentative par excellence, à l'intérieur de la tentative. C'est-à-dire que c'est la partie la moins sûre, évidemment, puisque j'essaie de me projeter sur une forme d'avenir. Ce qui m'a intéressé surtout, je vais prendre simplement l'exemple de l'antiracisme parce que c'est là que je me sens le plus à l'aise. Ce qui m'a intéressé, c'est voir comment apparemment un même problème pouvait être traité de manière politique dans l'ancien monde, si j'ose dire, c'est-à-dire dans le monde des États-nations, des royaumes combattants, où on prend des décisions et on s'efforce de les mettre en œuvre, et dans le nouveau monde religieux qui peut-être s'annonce. Alors, bon, dans le cas de l'antiracisme, le mouvement vient bien entendu des États-Unis, c'est le mouvement des civil rights dans les années 1960, et la perspective est claire dans les années 1960, j'entends. La communauté noire des États-Unis a subi des torts historiques considérables. Il faut les réparer. Nous allons les réparer. C'est le peuple américain qui s'en donne par le vote, d'ailleurs, hein, puisqu'il y a pratiquement une élection présidentielle, celle de 1964. Déjà un peu Kennedy en 1960, mais qui est faite sur cette question, c'est-à-dire sur la question des civil rights, d'une transformation profonde de la législation américaine pour mettre fin à l'injustice que subit la communauté noire. Et c'est la perspective, évidemment, dans une génération, deux générations au plus, ces perspectives, ces inégalités auront disparu et par conséquent, les races auront disparu. Car l'idée des années 60 et encore 70, c'est que les races ne sont que les races visibles ne sont que les effets visibles des inégalités sociales. Dès lors que les inégalités sociales auront disparu, les races auront disparu, c'est-à-dire cette petite différence de couleur ou d'allure physique n'aura plus aucune importance politique. Hein. Alors, évidemment, au bout de 60 ans, on mesure qu'il n'en est rien, évidemment, aux États-Unis et que cette politique a totalement échoué. Mais qui plus est, on est passé à autre chose, à une autre forme d'explication, c'est-à-dire à une explication religieuse, au sens que je donne au mot religion, c'est-à-dire au fait de poser un problème qui n'a pas de solution et dont on ne cherche plus la solution. Hein, c'est-à-dire... le racisme existera toujours et il faut que le racisme existe toujours pour que la religion existe toujours, que le dogme religieux existe toujours, c'est-à-dire pour que l'antiracisme existe toujours. Donc il n'est plus question de résoudre un problème comme on le faisait dans le monde démocratique, si j'ose dire, des années 60, où on prenait une décision et où on s'efforçait de la mettre en application. Il s'agit de poser des constantes de l'humain qui réclament fulmination, vaticination, condamnation, censure, exactement comme l'ont fait pendant 15 siècles les religions. Il ne s'agissait pas pour le christianisme ou pour l'islam d'éradiquer le mal, c'était impossible, mais du moins fallait-il le condamner. Eh bien, l'antiracisme, c'est de la même façon la décision désormais de condamner ce dont on sait qu'on ne pourra pas le surmonter, qu'on ne pourra pas le résoudre, c'est-à-dire le racisme.
Très bien. Écoutez, nous touchons au but de cette émission. Encore une fois, ça a été un plaisir de discuter avec vous, de vous entendre expliciter les buts et les objectifs et de synthétiser cet essai, évidemment, que j'invite évidemment à lire, naturellement. Encore une fois, merci Gabriel.
Merci à vous.
À bientôt.